Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors hier, on s'est quitté, nous avons quitté Marlène Dietrich plutôt dans le Berlin des années 20. Elle a renoncé à une carrière de violoniste classique pour se lancer dans le musical et le cinéma. Et c'est là qu'elle rencontre Steinberg.
Mais un mot d'abord sur cette époque fantastique. Les années 20 à Berlin forment une toile de fond fantastique en effet. Le pouvoir en place, appuyé sur la social-démocratie, le Zentrum catholique, les libéraux de gauche du DDP et les libéraux conservateurs du DVP étaient pris en tenaille entre deux tendances révolutionnaires, l'une de gauche, les communistes, l'autre de droite, les nationalistes. Les communistes avaient tenté une révolution en 1919, les nationalistes un coup d'état militaire en 1920. Le pays était sous tutelle de ses vainqueurs après une perte territoriale de 70 000 km² et de quelques 7 millions de ses citoyens d'avant-guerre qui vivaient dorénavant en Tchécoslovaquie ou en Pologne. Pour aggraver encore la situation morale du pays, l'hyperinflation ravagea le pays en 1922-23. Les dettes de guerre devait être soldé, le dollar qui valait 420 marks en juillet 1922 grimpe à 49 000 marks en janvier 33 et à plusieurs milliards de marks à la fin de 1923. La ruine des classes moyennes, de tous les épargnants, les soudaines fortunes accumulées par de jeunes spéculateurs crée un climat moral incroyable. Sébastien Hafner, dans Histoire d'un Allemand, appelle l'année 1923 l'année délirante. Les vieillards, écrit-il, et les rêveurs étaient les plus mal lotis. Beaucoup furent réduits à la mendicité, beaucoup acculés au suicide. Les jeunes et les petits malins se portaient bien. La conjoncture affamait et punissait de mort les esprits lents et ceux qui se fiaient à leur expérience. Parmi tant de souffrances, de désespoir, de misère, brûlait une fièvre ardente et juvénile. La concupiscence régnait dans une ambiance de carnaval généralisée. Voici que d'un seul coup, l'argent se trouvait aux mains des jeunes et non des plus vieux. Comme l'argent ne conservait sa valeur que durant quelques heures, on le dépensait comme jamais et pour des choses que les vieilles gens n'achètent pas. Ce fut une véritable explosion de bars et de boîtes de nuit. L'amour, l'amour jouisseur et hâtif était la grande affaire de tous. Témoignage du jeune Klaus Mann. La civilisation avec laquelle nous faisions connaissance dans les années 20 semblait privée d'équilibre, privée de but, privée de volonté de vivre, mûre pour la ruine, prête à la chute. Nous ne pouvions nous écarter d'une norme morale quelconque, il n'y avait plus aucune norme de cette espèce. Les clichés moraux de l'ère bourgeoise avaient pendant les années de guerre et de révolution perdu de leur autorité. Cette moralité puritaine et bourgeoise nous semblait radicalement liquidée. Alors il est vrai que, comme l'écrit Jean-Paul Bled dans sa biographie de Marlène Dietrich qui vient de paraître, en 1924, le climat politique tend à s'apaiser. Mais voilà le cadre dans lequel se déroulent les débuts de Marlène. Mariée à un bel âtre, Rudolf Sieber, elle a accepté le ménage à trois avec la maîtresse de son époux. Tamara Matoul, une danseuse, passe dans leur immeuble pour la gouvernante de leur fille, Maria, mais pour ménager les apparences, si la nuit Rudy partage le lit de Tamara, au matin Marlène exige que Rudy rejoigne le lit conjugal afin d'y accueillir leur petite fille. De son côté, Marlène est initiée à l'amour lesbien par Claire Waldoff, qui lui donne des cours de chant. Les deux amies apparaissent volontiers vêtues de smoking noir dans les cabarets à la mode et Marlène enchaîne les petits rôles au cinéma entre 23 et 29.
29, justement, Brice, l'année où Marlène Dietrich fait la rencontre qui va bouleverser sa vie, celle avec Joseph von Sternberg.
Oui, Sternberg qui va s'intituler son découvreur, son Pygmalion, son inventeur. À l'époque, Sternberg, qui n'est pas plus fun que vous et moi, c'est un dandy juif né en Autriche et émigré aux États-Unis est déjà une importante personnalité à Hollywood. Il a été envoyé par la Paramount avec laquelle il est sous contrat à Berlin pour coproduire un film avec la compagnie allemande UFA, dont ce devait être d'ailleurs le premier film parlant. Et il a choisi d'adapter à l'écran un roman de Heinrich Mann, Professeur Unrat. Une histoire de digne professeur de lycée qui, ayant entendu dire que ses élèves s'encanaillaient dans un bar à matelots, s'y rend afin de les surprendre. Mais il tombe amoureux de la chanteuse qui en est la vedette et il devient sa chose, son clown. Le rôle du professeur est déjà dévolu à Emil Jannings, une très grosse vedette de l'époque, mais Sternberg cherche ça à Lola Lola. Et lorsqu'il auditionne Marlène Dietrich, celle-ci lui dit qu'il fait fausse route, qu'elle n'est pas du tout faite pour le rôle. Et c'est précisément le culot de Marlène, sa désinvolture sublime, qui le convainc qu'il tient là la comédienne qu'il cherchait. Son rôle de femme fatale dans L'Ange Bleu va fixer pour toujours le personnage de Marlène, un personnage qu'elle va incarner à l'écran comme à la scène pendant près d'un demi-siècle. Mais Sternberg commence par la métamorphoser complètement et elle, qui a l'habitude de mener la danse en général, se laisse entièrement réinventer par son Pygmalion qui est devenu aussi son amant.